Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Pour co-animer cet épisode, eh bien, j'ai toujours Olivier de Scooter à ma droite. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et notre invité de la semaine, à savoir Marc Picrit. Salut Marc.
Salut Hermano. Salut Olivier.
On a bien débroussaillé tes nombreuses vies jusqu'à présent et pourtant, rappelons-le, tu n'es qu'un jeune trentenaire. On voulait finir sur ton dernier projet que justement tu as lancé en t'associant avec Olivier Van Nel, qu'on a déjà reçu dans ce podcast pour parler notamment de la conquête des Ardennes, à savoir ton projet Incisive. Est-ce que tu peux nous en dire, même pas plus, est-ce que tu peux tout nous dire sur le projet, Marc?
Ben oui, je vais essayer de débrouiller un peu ça. Donc, ben oui, effectivement, quand j'ai arrêté de naviguer, il fallait un autre projet, un autre enthousiasme, en tout cas un projet plus professionnel.
Ah, t'es de ce genre-là, t'es des gens qui savent pas s'arrêter en fait.
C'est ça, donc il faut chaque fois trouver un autre objectif, un autre projet, un peu comme on parlait des compétitions triathlon, c'est un peu ça. On va de projet en projet, de course en course, de saison en saison. Donc c'est un peu la même idée.
C'est marrant, Herman. On en rencontre quand même beaucoup des gens sur ce podcast.
Ouais, je connais Mathieu Stéphanie qui a pour coutume de dire dans son podcast Génération Do It Yourself ou GDIY pour les intimes qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Mais je pense aussi qu'on finit par fréquenter les gens qui nous ressemblent un peu, quoi.
Donc, qui sont dans notre moyenne à nous. Donc oui, je pense que ça doit marcher dans les deux sens.
Ouais, excuse-nous, Marc. Qu'on t'a coupé. Donc, ta 12e vie, tu savais pas quoi faire.
Oui, c'est ça. Donc, une fois que j'ai arrêté de naviguer, j'ai voulu trouver évidemment un autre projet. Et je réparais déjà le carbone, donc je faisais ça un petit peu déjà. Et puis, en réparant des roues, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de mieux que ce que je voyais. Il y avait moyen d'optimiser les choses. En fait, ce que je me suis rendu compte en réparant les roues, c'est que les roues étaient construites de manière un peu copiée sur le modèle d'une roue métallique qu'on faisait déjà dans le temps, il y a 20 ans. Mais que le carbone n'avait pas vraiment sa place dans le sens où on avait vraiment juste changé le matériel, mais pas vraiment construit la roue autour du matériel. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il y avait moyen de prendre le carbone comme point central de cette histoire et essayer de travailler avec le carbone comme point de départ plutôt que de transposer ce qui existait déjà sur un matériau carbone.
Tu veux dire que ce qui se faisait avant Incisive avec le carbone, c'était d'avoir changé le matériau pour gagner en poids finalement. Mais que, au contraire de ce qui a été fait sur les cadres où on a intégré le carbone pour gagner en poids, mais aussi pour gagner en rigidité, en nervosité et autres, ça n'avait pas été fait sur les roues, c'est ça?
C'est ça, c'est ce que je me suis rendu compte. En tout cas, il y avait tout un tas de choses qui avaient été déjà faites, mais d'autres qui pouvaient encore être beaucoup plus optimisées. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait arranger tout ça. Notamment au niveau des rayons, je me suis rendu compte que les rayons, notamment les rayons carbone pour les roues très haut de gamme, c'était des rayons comme les rayons conventionnels en acier qui étaient juste posés sur le carbone. Et donc, les jonctions n'étaient pas du tout optimisées et je trouvais que c'était vraiment dommage parce qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de beaucoup plus optimisé, beaucoup plus net. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ça. On a réfléchi avec Olivier et puis on a commencé à se poser des questions et essayer de valider nos hypothèses avec un bureau d'ingénieurs. C'est comme ça qu'on a commencé à démarrer le projet. Et de fil en aiguille, on a fait des prototypes et on a commencé à travailler sur là-dessus. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un projet qui était, plutôt solide et qui pouvait commencer à devenir concret. Et donc, on s'est lancé dedans.
Solide pour de la construction, c'est quand même le...
Ah, c'est une base, oui, c'est une bonne base.
Alors, si mes calculs sont bons, t'as dit quand t'as arrêté de naviguer, tu nous as dit les jours précédents que t'avais arrêté de naviguer en 2015. Donc, ça fait 6 ans que t'as arrêté de naviguer. Est-ce que ça veut dire que ça fait 6 ans que t'es sur le projet, que vous êtes sur le projet? Ou est-ce qu'au contraire, t'as commencé un petit peu plus tard, il a fallu d'abord mûrir un peu l'idée et avant d'avoir des premières idées de développement et ensuite des premiers protos?
Disons que l'idée a germé en 2015, fin 2015, et puis on a commencé à travailler sur le projet. Et puis, le début était un petit peu lent dans le sens où on a dû commencer avec vraiment zéro budget, donc on a cherché des financements, cherché des contacts au niveau des bureaux d'ingénieurs, et donc ça a vraiment démarré lentement. Et puis une fois que ça a commencé, il fallait développer le produit, c'est tout un combat, et donc oui, c'est des choses qui prennent assez longtemps. Et donc maintenant on arrive doucement au bout du processus, en tout cas du premier processus pour le premier produit. Et donc c'est assez excitant parce que c'est un gros projet, c'est une grosse aventure qui commence à à rentrer dans le réel, donc c'est toujours, toujours agréable de voir ça.
Alors hier, quand on a parlé des cadres carbone, justement, tu nous disais que le carbone avait cet avantage d'être très solide, mais ce désavantage, quand il est bien posé et dans le sens, en tout cas, pas perpendiculaire au choc qu'il pourrait recevoir. Une roue, on voit bien, hein, je pense qu'on visualise bien, c'est rond. Parfois, c'est en contact avec la route et parfois, bah, sur la route, on prend des nids de poule, on prend des choses comme ça. Comment est-ce que, justement, vous essayez de vous prémunir des problèmes de choc qui pourraient se produire sur des roues, qui pourraient les faire voler en éclats?
Alors, c'est assez complexe, hein. Il faut vraiment essayer de bien visualiser comment les fibres vont travailler à chaque endroit de la roue. Donc, il faut vraiment essayer de construire un tressage, vraiment une architecture de toutes ces fibres pour faire en sorte qu'à un moment, la roue ne soit vraiment dans un endroit où elle soit dans un endroit de faiblesse. Donc, il faut vraiment penser à tout, donc tous les chocs possibles, les déformations possibles, les efforts qui vont se produire quand on est en danseuse, quand on est sur le plat, quand on va travailler sur une roue arrière qui va transmettre les efforts de la transmission jusqu'à la route. Donc, c'est tout un tas de choses, notamment aussi en freinage, quand on a des bandes de freinage, voilà, des roues à patins ou alors même des roues à disque, donc ce sont des efforts de freinage assez différents. Tout ça, ça doit se comprendre, se visualiser, se prévoir dans la construction de la roue. Donc c'est toutes des choses.
Très concrètement, là maintenant, donc la roue, c'est quoi les avantages? Parce qu'il y a déjà des roues en carbone qui existent aujourd'hui. Quels sont les avantages de votre roue à vous?
Alors nous, on a travaillé sur deux aspects principaux. Le premier aspect, j'en ai un peu parlé, c'était les rayons. Donc on a voulu chercher à faire des rayons en carbone, mais des carbones qui soient intégrés dans une roue full carbone. Donc si on regarde un peu les roues existantes avec des rayons en carbone, ce sont des rayons carbone qui sont collés à la jante. Donc ce sont des rayons qui sont figés dans la masse de la jante. Et donc du coup, si jamais on casse un rayon, ce qui est assez courant quand on roule à vélo,
on
ne sait pas remplacer. Voilà, on doit changer toute la roue. Ce sont des roues qui sont assez chères, ce sont des roues qui sont un peu unique, et donc du coup changer chaque fois une roue à chaque fois qu'on casse un rayon, c'est un petit peu délicat. Du coup, on a travaillé sur un système de rayon qui puisse être changé, donc rayon carbone, mais qui puisse être changé et réglé aussi. Donc si jamais on prend un petit peu de voile ou une petite déformation de la roue, on pourrait toujours rattraper ce jeu, et donc ça, c'est vraiment un des aspects qu'on a voulu développer.
Parce que sur la plupart des, quand on a une roue voilée par exemple, en général il suffit de resserrer un petit peu certains rayons pour retrouver un équilibre. Sur ces rayons, en tout cas sur ces roues 100% carbone, avec des rayons carbone, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas possible.
Tout à fait, donc ce sont des choses qui sont tout à fait figées. Et donc, si jamais la roue a été construite avec un tout petit peu de déviation par rapport à ce qui était prévu, c'est quelque chose de permanent. Si la roue prend un petit peu de déviation parce qu'elle a chauffé ou parce que, dans l'utilisation, elle a un tout petit peu bougé, c'est permanent aussi. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment un petit peu délicates avec ce genre de roue. Nous, on a voulu vraiment travailler sur quelque chose qui reste ajustable malgré le fait que ce soit tout carbone. Donc, ça, c'est un des aspects qu'on a voulu développer. Et alors l'autre aspect, c'est un aspect un peu particulier. Donc on parlait de l'aéro, c'est un peu dans la continuité de ça. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est... Donc vous voyez un peu les roues carbone, c'est des roues avec souvent des hauts profils. Ça veut dire des hauteurs de jante assez importantes. Et cette histoire de hauteur de jante, c'est évidemment pour gagner en vitesse. Donc quand on va faire des parcours sur le plat, on aime bien avoir des grosses hauteurs de jante pour vraiment optimiser l'aérodynamisme. Paradoxalement, quand on fait de la montagne, à l'inverse, on fait des petits profils pour gagner en poids, en dynamisme. Et donc, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est...
Oui, en souplesse aussi.
C'est ça, en souplesse, en dynamisme. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est garder un peu l'avantage des deux. Et donc, pour ça, on a essayé de travailler sur une jante. C'est un peu toujours le problème de faire des compromis. Et ici, on a essayé de chercher un bon compromis en faisant une jante unique sur laquelle on peut greffer des profils aérodynamiques différents. Donc, on a une seule hauteur de jante, une jante assez petite, assez fine. Et sur cette jante de base, on va dire, on va pouvoir greffer des profils aérodynamiques supplémentaires. Donc, on va pouvoir changer ce profil et augmenter en fonction des courses qu'on veut faire, du profil de l'étape. Ou alors des conditions météo. Si on a beaucoup de vent, on va préférer des profils un peu plus bas que des très, très hauts profils et inversement. Et donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire à condition qu'on prévoit bien cette accroche de profil sur la jante. Donc c'est quelque chose qui était assez difficile à mettre en place et à tester et à valider, on y est arrivé finalement, et donc on est assez content.
Et ça, c'est quelque chose que n'importe quel utilisateur peut faire, ou il faut repasser au stand, entre guillemets ? C'est-à-dire repasser chez vous pour faire ajuster ou modifier ses profils ?
Alors justement, c'était un des gros défis, c'était que l'utilisateur devait pouvoir le faire facilement et en quelques secondes. Donc on a vraiment travaillé sur un mécanisme de changement de ces profils qui soit vraiment très très facile. Et donc ici, on l'a testé, on peut vraiment changer avec un petit peu d'entraînement ces profils en quelques secondes. Donc on a en moins d'une minute pour changer les profils, donc c'est vraiment très très facile.
Quelles sont les différentes options ?
J'imagine bien sur les grosses cyclos, tu sais, tu vas avoir des cyclistes qui vont changer leur profil en cours de course, et ça va devenir des tortues ninja, ils vont avoir leur profil dans le dos comme ça. Si c'est trop venteux, ils enlèvent le profil, et puis si ça roule et qu'il n'y a pas trop de vent, ils remettent le profil. Ça va être sympa comme paysage, non ?
Oui, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ça quasiment. Il faut quand même enlever la roue du vélo pour pouvoir enlever le profil.
Ah,
parce que forcément, c'est comme ça un anneau qu'il faut enfiler, il faut quand même le passer à un moment donné, mais une fois que la roue est enlevée, c'est vraiment quelques secondes. Et donc pour te répondre, Olivier, les différentes hauteurs de profil disponibles, eh bien on part avec une jante nue, je dirais, donc sans profil aérodynamique, qui est déjà aérodynamique de base, mais qui est à 40 mm, okay. Donc c'est relativement faible. Et cette 40 mm, ça permet surtout d'avoir une bonne rigidité, donc d'avoir une jante qui soit pas trop trop fine non plus, pour garder une bonne rigidité et un bon dynamisme de la roue. Et donc à ça, on va griffer des profils qui viennent de 60, 80 et 100 mm. Donc c'est vraiment retrouver des très très hauts profils de 100 mm. Et l'avantage aussi de ce profil amovible, c'est que comme il n'est pas structurel, donc ça veut dire qu'il ne doit pas supporter le poids, la tension des rayons, eh bien ce sont des profils qui sont tout à fait... très fins, qui sont très très fins. C'est ça, ils ont vraiment rien à faire en termes de structure. Donc du coup, ils sont très très fins. Ils sont juste là pour l'aérodynamisme. Donc ils sont quelques grammes, mais donc c'est vraiment.
Parce que tu parles beaucoup d'aérodynamisme, il y a aussi un effet d'inertie, je pense, qui est vachement important dans ce type de jante.
Alors oui, c'est vrai que le côté d'inertie, c'est quelque chose qui est très important. Alors c'est surtout quelque chose qui est ressenti. Parce qu'il faut savoir que cette histoire d'inertie, c'est quelque chose qui est un petit peu un biais cognitif, puisque en fait quand on pédale, il faut chaque fois relancer les choses, et donc relancer la machine, relancer le vélo et tout le poids qui est en mouvement. Et effectivement, les roues, il y a une inertie qui est de rotation, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'inertie dans les roues que dans le vélo. Maintenant, c'est vrai que c'est plus un désavantage qu'autre chose d'avoir cette inertie. Donc on ressent comme si jamais ça lissait les accélérations qu'on peut donner au vélo, mais en fait, en fin de compte, c'est beaucoup mieux de ne pas avoir cette inertie, et donc même si on ressent comme si c'était quelque chose de positif, au final, ce n'est pas tellement. Donc il vaut mieux ne pas l'avoir.
Là, je suis surpris du coup, je m'y attendais pas.
Ouais, oui, c'est quelque chose qui est contre-intuitif, mais oui, c'est ça. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs qu'en montagne, eh ben, toute cette inertie, ben, ça va un peu plomber les choses. Parce que effectivement, il faut vraiment éviter d'avoir cette inertie qu'il faut chaque fois relancer.
Et parce que bon, après je suis pas ingénieur, mais je vais quand même essayer de comprendre. Au plus tu mets du poids à l'extrémité d'un cercle que tu vas faire tourner, on est d'accord que au plus il y aura du poids à cette extrémité, au plus il y aura un effet d'inertie. Donc au plus ton cercle va tourner plus longtemps.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est vraiment ça, c'est le moment d'inertie d'une roue. Hein. Donc avec la vitesse de rotation, tout ce qui est loin du centre de la roue, loin du moyeu, va commencer à vraiment acquérir une grosse inertie. Et donc cette inertie va permettre de lisser en fait les accélérations. Donc, quand on va appuyer sur les pédales, c'est pas une force constante. Donc quand on analyse le coup de pédale, ce sont chaque fois des à-coups. Hein. Donc c'est comme un piston, c'est chaque fois des à-coups. Et donc il y a effectivement un travail à faire au niveau du pédalage pour lisser un petit peu ce coup de pédale, pour essayer d'optimiser ce coup de pédale. Et puis d'autre part, eh bien il y a toute cette histoire de effectivement que l'inertie va lisser naturellement un petit peu toutes ces impulsions. Et donc le fait d'avoir cette inertie, ça va donner l'impression que la vitesse est beaucoup plus constante et qu'on reste entraîné par l'effort qu'on a déjà produit. Maintenant, il faut savoir que cette inertie, chaque fois qu'on va la faire changer, eh bien on va devoir injecter de l'énergie là-dedans. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on va devoir accélérer une masse qui est en rotation comme ça en extérieur, ça va demander de l'énergie. Et puis chaque fois qu'on va la freiner, ça va de nouveau voler cette énergie à l'inertie. Donc chaque fois qu'on va devoir donner un coup de frein, cette inertie va vraiment être perdue. Alors que quand on a une roue légère, chaque fois qu'on va décélérer, ça va vraiment beaucoup moins impacter la perte d'énergie. Donc, au final, on observe que c'est quand même intéressant d'avoir des roues plus légères que plus lourdes. Même si c'est l'impression qu'on aurait d'avoir ce lissage, c'est vraiment une impression plus qu'autre chose.
Ok, donc ça veut dire que moi, quand je mets mes roues aéro, en fait, le seul phénomène qui se passe, qui me permet moi d'avoir de meilleures performances, c'est l'aérodynamie. C'est uniquement ça.
C'est ça, c'est vraiment ça, c'est la seule chose qui va vraiment être utile. Tout le restant, c'est vraiment quelque chose qui va être plus de l'ordre de la sensation. Donc effectivement, quand on pédale, on sent que c'est beaucoup plus lisse et on a l'impression qu'on reste à la même vitesse et qu'il ne faut pas à chaque fois réaccélérer à chaque coup de pédale. En définitive, bien, c'est vraiment une impression puisque cette inertie, elle est perdue à chaque fois qu'on va donner un coup de frein, à chaque fois qu'on va tourner, à chaque fois qu'on va devoir relancer, on va devoir perdre de l'énergie. Donc c'est pas tellement intéressant au final.
Et du coup, là, 5 ans de R&D, de recherche et développement après, vous en êtes où? Est-ce que tu as quelques chiffres en termes de nombre de prototypes que vous avez déjà fait réaliser, que vous avez testé, en termes d'heures de travail passées dessus, en termes de, je sais pas, de bière bu, parce que vous êtes belge quand même, les gars. Puis, est-ce que vous avez une date pour le lancement officiel?
Eh bien oui, alors beaucoup de bière bu, évidemment, et puis pas mal de prototypes aussi, bien sûr. Oui, on a plusieurs dizaines de prototypes différents. On a vraiment fait beaucoup d'essais, avec des sections isolées, avec des roues complètes. On a déjà roulé avec plusieurs prototypes différents pour essayer de comparer un petit peu les sensations aussi. Et on a passé plusieurs fois les tests d'homologation. Donc voilà, on a beaucoup de choses qui sont en cours. On arrive doucement à quelque chose de définitif. C'est un peu trop tôt que pour donner une date précise de lancement, puisqu'on est on n'est pas tout à fait fixé sur le programme de cette année, notamment parce qu'avec les restrictions Covid, tout ça, eh bien il y a eu pas mal de retard dans les livraisons de matières premières, donc dans les rouleaux de carbone qui sont quand même des rouleaux de matières premières qui sont assez précis, donc c'est pas n'importe quel carbone qu'on utilise, évidemment, ce sont des matériaux assez spécifiques, et bien ça a pris du retard, on n'est pas dans les premiers à être livrés, donc du coup ça prend un peu de retard aussi, mais si tout se passe bien, on aimerait bien encore sortir les premières roues cette année ou l'année prochaine. Donc, c'est dans cet ordre-là.
Alors, tu nous expliquais justement que l'une des particularités de vos roues, en dehors des rayons qui sont amovibles, c'est aussi ces profils qui permettent de passer d'une roue plus ou moins aéro à une roue très aéro. Tu expliquais aussi un peu avant que le marché que vous aviez analysé, c'était plutôt le marché des roues premium. En termes de placement, en termes de positionnement, de prix, vous en êtes où? Et puis justement, est-ce que le fait de pouvoir ajuster ces profils vous permet, pour le prix peut-être d'une grosse roue, finalement d'en avoir deux?
C'est ça, donc c'est un peu l'idée. Si on compare un petit peu les prix des roues de ce type-là, bien c'est quand même des prix assez importants. On est dans les voilà entre 3 et 5 000 euros plus ou moins, et même plus. On va situer plutôt dans la fourchette basse, donc plutôt dans les 3 000-3 500 euros, quelque chose comme ça. Pas tout à fait définitif, mais c'est dans cette idée-là. Et effectivement, nous, on a quatre paires en une, quelque part, puisqu'on a la jante nue plus les trois profils possibles. Donc, c'est comme si on avait acheté quatre paires de roues avec des profils différents. Donc, ça, c'est un peu la comparaison qu'on pourrait faire.
Et tu disais que vous aviez breveté l'invention. C'est quoi que vous avez breveté? C'est à la fois les rayons amovibles et les profils amovibles aussi?
Oui, tout à fait. Donc, on a breveté toute cette idée-là. Tout ce développement, donc c'est assez compliqué à cette histoire de brevet, donc de façon de protéger les choses, c'est pas tout à fait intuitif de nouveau, c'est quelque chose d'assez spécifique, et donc on a dû apprendre pas mal de choses dans ce domaine-là aussi, et on s'est fait conseiller bien sûr, et puis voilà, ce sont des brevets qui sont protégés maintenant, et qui sont en cours, donc c'était aussi un gros défi, un gros objectif d'arriver à pouvoir protéger des choses comme ça.
Donc ça, c'est des brevets internationaux, c'est-à-dire que n'importe où dans le monde, il n'y a personne qui pourra utiliser le même système que vous.
Oui, alors c'est par zone. Ici, on a protégé, en tout cas pour l'Europe, et puis on a étendu à quelques zones supplémentaires. Et puis on verra un jour ou l'autre pour le marché américain. On verra
oui, parce
bien.
Que ça a un coût, tout ça. C'est cher, les brevets.
Oui, bien sûr. Ce sont des coûts assez conséquents. Et puis, pour, pour le début, voilà, il faut à un moment donné que ça rentre et que le produit sorte avant de pouvoir faire ce genre d'investissement aussi. Mais bah oui, ça devrait aller de manière parallèle, bien sûr.
Et c'est quelque chose que vous avez financé entièrement vous-même alors, ou vous avez eu des financements externes?
Alors ça a été financé par nous-mêmes, bien sûr. Et puis alors, on a eu des subsides de la région wallonne. Et puis on a travaillé en coopération avec des centres de recherche aéronautique. Du côté de Charleroi, donc avec le centre Senaero, et puis on a commencé à la production maintenant en Pologne, et donc on est maintenant sur la dernière étape de production et de mise en vente.
Au niveau de la production, comment est-ce que vous vous organisiez, puisque on l'a compris dans les épisodes précédents et notamment celui d'hier, toi tu travailles déjà le carbone puisque tu répares les cadres carbone. Donc est-ce que tu produis ces roues ou est-ce que tu les fais produire? Bah, t'as répondu à la question, vous les faites produire en Pologne.
Oui, ça, on les fait produire en Pologne. On a fait pas mal de recherches ici en Belgique, notamment dans des champs de recherche, et puis de nouveau on a travaillé en coopération avec la Pologne aussi. Et puis maintenant que le développement, je dirais, est arrivé au bout, eh bien on va commencer la production là-bas. Donc on a vraiment développé tout un côté production, donc une chaîne de production en Pologne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a produit un peu clé sur porte parce que notre processus de fabrication est assez spécifique. Et donc justement pour répondre à ces critères de construction des rayons et des jantes avec ces profils amovibles, on a dû construire toute une aile de production spécifique avec des chambres froides et tout un tas de choses. Donc c'était toute une histoire aussi à développer. Donc vraiment une grosse aventure de ce côté-là. Voilà, on est content que ça puisse enfin commencer à servir de manière concrète. Parce que c'était...
Alors concrètement, ça veut dire que Olivier et toi, vous vous êtes déplacés jusque chez votre fournisseur en Pologne pour contribuer à la construction de la ligne de production de vos produits.
Exactement, donc comme c'est quelque chose de tout à fait nouveau comme processus de fabrication, on a vraiment dû développer ça avec lui et vraiment imaginer de nouveau tout un système de production spécifique avec tout un système de moules, de chambres froides, de transfert de matériaux, enfin tout un tas de choses qui sont vraiment spécifiques à notre manière de produire.
Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous partagez les coûts? Enfin, si tu peux rentrer dans le secret, comment est-ce que vous partagez les coûts avec votre fournisseur? Est-ce que lui aussi prend un risque ou tout le risque est pour vous?
La majorité du risque est pour nous, évidemment, puisque c'est nous qui sommes commanditaires et qui gardons un peu la main là-dessus. Donc c'est majoritairement nous, mais il a quand même pris des risques. Il a beaucoup investi aussi en termes de place notamment et puis de machinerie. Donc c'est vraiment quelque chose de partagé, mais c'est quand même nous qui prenons la majorité du risque financier.
En termes de justement de produits que vous allez sortir, déjà j'imagine qu'il n'y a qu'une seule taille de roue. Vous n'allez pas travailler sur plusieurs tailles. Mais combien vous envisagez de production dans un premier temps?
Alors on commence avec une production relativement modeste, puisque évidemment il y a un coût et qu'il faut... Il faut investir beaucoup, donc il faut à un moment donné qu'on retrouve un peu l'investissement. Mais on commencera avec, à mon avis, une production de plus ou moins 200 paires, 200-300 paires sur la première année.
Paires, hein, donc ça veut dire
c'est ça.
Entre 400 et 600 roues.
C'est ça, tout à fait, avec tous les profils qui vont avec. Les roues qui seront déclinées, évidemment, en version patin et en version frein à disque, bien sûr. Et bien sûr, elles sont en pneus et en boyaux. Et puis, elles seront assez rapidement en tubeless aussi.
Petite question par curiosité. C'est quoi, selon vos estimations, le pourcentage du marché en frein à patin versus frein à disque?
Alors, c'est sûr que le frein à disque prend vraiment la majeure partie de tous les nouveaux vélos sont en disque. Donc, c'est évident que c'est l'avenir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours un petit avantage pour le patin, surtout en tout ce qui est contre la montre et triathlon. En termes aérodynamiques purs, eh bien c'est incontournable. Le patin est un tout petit peu meilleur en termes d'aérodynamique. Donc c'est vrai que voilà, pour pas mal de parcours, je dis pas tous les parcours, mais pour beaucoup de parcours, le patin a quand même encore une raison d'être. Maintenant, pour des parcours qui sont plus accidentés avec des descentes, évidemment, ça commence à devenir un vrai questionnement, parce que le frein à disque permet de diminuer le temps et la distance de freinage. Donc c'est vrai que ça commence à jouer à ce mot-là. Mais pour beaucoup de parcours, encore, le patin a encore une raison d'être.
De toute façon, le contre-la-montre et le triathlon, en général, on ne freine pas beaucoup.
Oui, c'est vraiment pas le but de freiner dans ce genre d'exercice.
C'est pas le but.
C'est évident.
Tu freines quand tu arrives au parc ou quand tu arrives à la ligne.
Exactement, exactement.
Du contre-la-montre. Et justement, pour finir, si on veut en savoir plus sur ce projet, vous avez déjà un site internet, où est-ce qu'on peut retrouver plus d'infos sur les réseaux sociaux et autres?
Je pense qu'on n'a même pas mentionné le nom en fait, de ton projet, donc c'est peut-être le moment de le faire.
Oui, tout à fait. Voilà, bon, en tout cas, pour le rappeler, ça s'appelle Incisif, le projet. Pour les informations, il y a une page Facebook Incisif et puis il y a un site web. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il n'y a pas encore beaucoup de photos des roues puisque c'est encore sujet à caution et donc on publiera ça prochainement dès qu'on aura quelque chose de concret, de propre à montrer, mais ça viendra très prochainement.
Donc ça s'écrit INCISIV.
C'est ça, tout à fait. Ouais, incisif.
Bon, de toute façon, on mettra toutes les infos dans les notes de l'épisode. J'ose pas te demander un coupon pour nos auditeurs, en tout cas, il faut que vous rentriez dans vos frais, je sais pas si c'est correct.
Si, si, bien sûr, ben on fait d'office un coupon pour tous les auditeurs, c'est sûr. On fait d'office 10%, de toute façon.
Waouh, super. Bon, bah écoute, on passera le message s'il y en a qui sont intéressés pour commander chez vous, ce sera
avec plaisir. Plaisir.
Bah, merci beaucoup, Marc. On te souhaite une bonne continuation. Beaucoup de grosses ventes dans ce nouveau projet, qu'il explose et puis que bientôt, dans le parc à vélo des triathlons, on voit beaucoup de monde équipé en incisive, et puis plein de bonnes choses pour la suite.
Eh bien, grand merci, et merci à vous tous les deux, merci beaucoup.
Merci pour ton temps, Marc, à très bientôt.
Merci. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions, et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.